France Culture.
C'est par Dali Yaha. Merci à Linda, l'association Linky. Merci également à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Luce Mourant, notre stagiaire. If it was my last day on earth, if it was my last day, if I close my eyes and the sun don't rise, would I be okay? If it was my last day on earth.
La rentrée littéraire d'automne, c'est aussi la découverte de nouvelles voix.
Marie Richeux.
Dans leur premier roman, Louise Rose et Reine Belivier se mettent dans les pas de deux femmes qui partent. L'une pour retrouver la maison de son enfance, l'autre pour fuir le domicile conjugal. Emboîtement d'images, récits à rebours et invention de soi sont à notre programme. Les autrices sont nos invitées.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
La science, c'est QFD. C'est une heure quotidienne dédiée aux sciences, à toutes les sciences.
Natacha Triot.
Réchauffement climatique, pandémie, nouvelles technologies, nous sommes face à des défis scientifiques immenses. Elles nous concernent d'une façon ou d'une autre. Les sciences sont l'affaire de toutes et tous. Alors on articule science et société pour se saisir des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et puis la culture scientifique, c'est de la culture générale.
La science, c'est QFD. Du lundi au jeudi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Si le mot « infini » semble nous arrêter dans un vertige du plus profond de nous jusqu'aux confins de l'espace, quelque chose se touche pourtant. Dans cette ère de post-vérité, la science nous apprend que les particules élémentaires composent tout.
Quand on prend un microscope, on peut déjà commencer à voir des cellules, des cheveux notamment, ou d'autres objets que vous avez sous la main.
LSD, la série documentaire « Au-delà de l'atome » par Tony Ayer, réalisation Gilles Mardi-Rossian. Du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Tout de suite, on retrouve Aurélie Luneau.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
David contre Goliath, au camp des alerteurs, des journalistes et des défenseurs de la planète se retrouvent aux prises avec le droit et la justice. Partout dans le monde, le recul des démocraties, la montée de l'autoritarisme, la mise à mal de liberté et de contre-pouvoir essentiels à la démocratie marquent régulièrement l'actualité. Et dans ce panorama, le recours à des procédures judiciaires abusives, à des attaques contre des journalistes, contre des alerteurs ou des associations de défense de l'environnement, semble plus fréquent. En avril 2024, le Conseil de l'Europe a même adopté une recommandation qui encourage ses 46 États membres à prendre des mesures contre les poursuites Bayon. Où en est-on, en France, de ces méthodes et usages du droit? Que doit-on craindre? Et quelles solutions pour ceux qui en sont victimes? Voici quelques questions que nous allons aborder avec nos trois invités. Sophie Lemaître, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, auteur du livre « Réduire au silence », un livre qui vient de paraître aux éditions Rue de l'Échiquier. Inès Leroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation, autrice de « Algues vertes, l'histoire interdite », paru aux éditions Revue dessinée Delcourt. Et puis, on peut mentionner aussi le dernier né, « Champ de bataille, l'histoire enfouie du démembrement », un livre paru également aux éditions Delcourt. Et avec nous, Arnaud Gossemand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat et professeur associé en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste en droit public et en droit de l'environnement. Ça tombe bien, merci d'être avec nous. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes toujours en partenariat avec le journal Le Monde, l'émission toujours préparée par Célestine Babinet, avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Pierre Pinault de l'INA et celle des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Nicolas Leroulé.
D'abord, il y a le travail d'une jeune journaliste d'investigation, Inès Leroux, qui a enquêté sur l'agroalimentaire en Bretagne et les algues vertes, avec au final la sortie d'une bande dessinée qui l'avait fait venir sur notre plateau il y a un an.
J'avais pour idée de reconstituer cette histoire, de la retracer, et que je me suis moi-même heurtée à un mur du silence quand j'ai voulu interroger les autorités ou les industriels en Bretagne ou l'administration.
Une journaliste attaquée en diffamation par l'entreprise Cheritel, grossiste en fruits et légumes à Guingamp. Pour la soutenir et la défendre, une pétition a vu le jour et des médias se sont fait l'écho de cette difficulté d'informer. Aujourd'hui, c'est un collectif de journalistes signé par plus de 350 plumes qui adresse une lettre ouverte ouverte au président de la région, Loïc Chesnais-Girard, pour dénoncer ces pratiques.
Quand on est pigiste ou quand on travaille pour un petit média comme le mien, eh bien c'est très compliqué. Il y a des pigistes qui ont eu par SMS des menaces d'attaques en diffamation qui émanaient de chambres d'agriculture. Il y a des pertes de subventions. Il y a des journalistes qui se retrouvent à ne plus être invités par les collectivités territoriales à aucun point presse.
Extrait de reportage diffusé sur France 3 Régions dans le 19-20 Grand Ouest. C'était le 27 mai 2020. On vous entendait, Inès Leroux, dans ce reportage. Peut-être que, avant justement de s'intéresser au fil de l'émission à ce qui a été votre parcours et ce que vous avez dû aussi affronter, peut-être que vous pouvez nous parler de vos premières enquêtes de terrain délicates. Ça remonte à quand et c'était sur quel sujet ?
Alors, j'ai mené des enquêtes de terrain en vivant à Paris, oui. Notamment pour Radio France, dans plusieurs régions françaises. Je travaillais beaucoup sur les salariés, les ouvriers exposés aux produits chimiques. Et puis en 2015, je me suis installée en Centre-Bretagne, en terre agroalimentaire. Et là, ça a changé beaucoup de choses, ce déplacement. Et de vivre au milieu de la population qui dont le quotidien est quand même soumis, en fait, à cette industrie omniprésente. Et donc, c'était ça, mes enquêtes, c'était pour les pieds sur terre, ça s'appelait La Fabrique du silence, et c'était en 22 épisodes.
Et donc, vous avez d'emblée senti que vos façons d'investir en fait, le terrain, et puis d'aller fouiller hein, quelque part, ça suscitait des réactions violentes, et que le phénomène s'amplifiait au fil du temps.
Oui, j'ai appelé ça La Fabrique du silence, parce que mon projet, c'était justement de documenter les pressions, les menaces, et les censures et autocensures, en fait, de tous les contre-pouvoirs ou de toutes les voix critiques sur place concernant l'agroalimentaire, y compris les associations environnementales qui ne pouvaient, par exemple, pas toujours parler de tout parce qu'elles risquaient de perdre leurs subventions régionales, etc. Comment tout l'argent circulait, tout l'argent, en fait, qui alimente la presse, les associations, etc., passe toujours à un endroit ou à un autre par les mains de ceux qui tiennent le système agroalimentaire breton.
Donc un système sous pression, nous allons en parler. Sur le front de l'environnement et du climat, Sophie Lemaître, quelques chiffres que vous nous donnez dans le livre sont effectivement très intéressants. Entre 2012 et 2023, 2106 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde. L'Amérique latine en tête, des pays touchés. Donc j'ai relevé Colombie, Brésil, Honduras, Mexique. On voit que des journalistes parmi ces défenseurs de l'environnement, il n'y a pas que des journalistes, mais des journalistes notamment meurent chaque année pour avoir informé sur des pollutions, destructions, déforestations, trafic, dommages faits à l'environnement et à la planète. Et sur ces 15 dernières années, vous écrivez que 44 journalistes de 15 pays différents qui travaillent sur les questions environnementales ont été tués. Tout cela pour vous, dans votre enquête et dans le livre que vous avez écrit et que vous nous proposez, c'est vraiment cet objectif de nous dire attention, on est en train de vivre quelque chose de plus important que ce qui existait déjà depuis des décennies.
Je pense qu'on voit une aggravation en fait de la situation où on a de plus en plus d'attaques et il y a plusieurs organisations au niveau international, européen et même au niveau français en fait qui recensent ces attaques, donc on peut les objectiver et on voit qu'au fil des années elles augmentent. Si je donne un chiffre juste pour les journalistes en Europe, on a une organisation qui les recense. Quand elle a démarré, c'était en 2020, elle recensait 290 violations au niveau de l'Union européenne. En 2020, c'était 942. Donc on voit quand même une évolution et elle va pas vraiment pas du tout dans le bon sens. Et quand on travaille sur des sujets considérés comme sensibles, dont l'environnement, et ça devrait pas être considéré comme sensible, eh bien on est plus à risque qu'on soit un journaliste, un chercheur, un défenseur de l'environnement, un lanceur d'alerte.
Et là vous parlez de l'Europe.
Je parle que de l'Europe, oui.
Et en sachant que dans ce paysage européen, la France n'a pas la meilleure place.
Mais non, au niveau des journalistes, au niveau européen, des attaques contre les journalistes, on est dans le top 3. Avant nous, c'est l'Allemagne et l'Italie, et ensuite, c'est la France. Donc on voit, pareil, la tendance ne fait que s'aggraver. Et nous, au quotidien, citoyens, on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est ça que je voulais, en fait, avec le livre, c'était montrer tout cet ensemble. Et cumuler, ça fait quand même beaucoup. Et ça doit nous alerter, parce que si les journalistes ne peuvent plus nous informer, pays ne peuvent plus enquêter comme Inès Leroux, eh bien, on n'aura plus d'informations sur l'impact des algues vertes, par exemple, et la conséquence que ça a sur la santé pour la vie humaine ou les animaux et la Terre.
C'est la raison pour laquelle vous vous écrivez que l'espace civique se restreint à travers le monde. Il y a cet effet direct aussi sur la situation qu'on est en train de vivre.
Oui, on sait, il y a une ONG qui s'appelle Civicus qui a établi que 85% de la population mondiale vit dans un espace civique fermé, entravé ou réprimé. Et seulement 3% de la population vit dans un espace dit ouvert. Donc ça fait 40 pays. Donc voilà, on a vraiment la grande majorité des gens ne vivent pas dans un lieu où en fait ils peuvent se réunir librement, ils peuvent manifester, ils peuvent rejoindre des associations et ils peuvent s'exprimer librement. Donc on a un vrai phénomène de restriction et la France n'est pas une exception.
Alors dans ce paysage, on va progresser pas à pas et s'intéresser bien sûr aux droits, aux procédures Bayon. Juste avant, quelles sont les méthodes directes utilisées pour réduire au silence ?
La méthode la plus directe, c'est l'assassinat. On a donné quelques chiffres. Mais il y a tout un panel, en fait, tout un éventail de techniques, bien sûr du harcèlement, des abus en ligne, de la surveillance, que ce soit physique ou électronique. On va avoir des arrestations, de la détention arbitraire, des perquisitions, des gardes à vue. La liste est tellement longue, mais c'est un peu le phénomène qu'on voit, menaces de mort, des tentatives d'enlèvement. Alors ça, peut-être pas en France, mais dans des pays, il y a des enlèvements et des disparitions forcées.
Mais les menaces de mort existent aussi en France. Avant de revenir vers vous, Inès Leroux, pour recueillir justement vos impressions directes de ce que vous avez pu subir, je vous propose d'écouter cet extrait de la bande-annonce du film Les Algues Vertes, film de Pierre Jolivet.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ?
Oui. D'après ce qu'on sait, Thierry va quitter l'entreprise vers 8h.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine.
Mon fils, il était tout noir.
Ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Mais l'enquête continue, non ?
C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, Madame Leroux.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça ?
C'est ce que je voudrais savoir.
Je suis désolée, mais ça va pas être possible.
Ils font tout pour pas me parler.
Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région.
Si je tombe mal...
Mais tu tomberas toujours mal.
Lâchez la mort que vous faites.
Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre.
Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire.
Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro.
Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture.
C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent.
Vous savez ce que c'est, la vraie violence ?
C'est le prix du lait. 30 centimes le litre depuis 30 ans.
Tes reportages, ils font trop de remous.
Les écolos vont encore nous faire chier.
Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens.
Faites attention à vous quand même.
Nous sommes en guerre, Madame Leroux. C'est une vraie et grande guerre économique.
Soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre.
Inès Leroux, quelles ont été concrètement, dans votre cas, les techniques directes d'intimidation et de violence que vous avez pu subir ?
Justement, j'ai essayé de faire une petite chronologie pour l'émission. Donc, c'est vrai que, en fait, c'est vraiment en me déplaçant en Centre-Bretagne et là où je vis maintenant depuis 2015 que j'ai commencé à davantage ressentir les pressions. J'ai senti que je dérangeais davantage en habitant sur place, au milieu des témoins. De 2015 à 2018, les pressions étaient surtout sur les réseaux sociaux. C'était du harcèlement. Il y avait aussi des coopératives agricoles qui ont organisé des fausses manifs de salariés contre mon travail, en disant que ces salariés se sentaient blessés par mon travail, alors que bien sûr, en fait, mes enquêtes décortiquaient davantage le rôle toxique de ces entreprises plutôt qu'attaquer les salariés eux-mêmes. Et puis, à partir de 2018, j'ai des témoins qui ont eu des menaces de mort. Et Morgane Large, ma consoeur de la presse locale, qui travaille pour RKB et qui a témoigné dans mes enquêtes pour Les Pieds sur Terre sur France Culture, s'est retrouvée à subir un premier déboulonnage de roue. Et puis l'année d'après, j'ai connu deux procès en diffamation.
De roues de son véhicule.
Ouais, de roues de son véhicule
qu'elle prenait pour emmener ses enfants à l'école.
Qu'elle a failli perdre au volant.
Voilà.
L'année d'après, j'ai été poursuivie deux fois en diffamation. C'était des procédures éreintantes, surtout pour une journaliste d'investigation qui, en plus, j'étais loin des rédactions pour lesquelles j'avais travaillé à ce moment-là. Et bon, je pourrais revenir plus en détail sur ces procédures en diffamation plus tard, mais c'était des personnes qui se sont désistées à la veille de l'audience quasiment, alors que la procédure avait duré 18 mois. Et puis, il y a eu des associations qui m'invitaient à parler en Bretagne, qui perdaient des subventions, d'autres qui annulaient mes invitations, par exemple des salons du livre, etc. Et en fait, l'année d'après encore, il y a eu la cellule Déméter qui s'est montée, et ça a été encore un grand bouleversement dans nos pratiques.
Donc cette cellule Déméter, on pourra en parler dans la deuxième partie d'émission, effectivement, qui cette cellule de renseignement montée au sein de la Gendarmerie nationale sur demande du ministère.
Et de la FNSEA.
Et de la FNSEA.
Et du ministère de l'Intérieur.
Exactement. Arnaud Gaussemain, tout cela, donc depuis le début de l'émission, vous êtes très attentif et je sais que vous avez lu justement le livre aussi de Sophie Lemaître. La guerre par le droit, le lawfare, puisqu'on voit bien que après les menaces directes, on bascule aussi sur un usage du droit. Aujourd'hui, on est dans cette réalité-là, une arme de dissuasion massive.
Alors oui, c'est une réalité qui existe, et c'est le grand mérite du livre, pas simplement à propos de la protection de l'environnement. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous êtes non seulement allé à l'international pour montrer qu'il y avait un mouvement mondial de silenciation des personnes qui souhaitent protéger l'environnement, mais pas que l'environnement, et ça peut être les droits des femmes, ça peut être les droits d'opposants à un régime autoritaire, etc., etc. Et le point commun, on va dire, à toutes ces personnes, ce sont des personnes qui, on va dire, dénonce bien souvent ce qui fait que notre société aujourd'hui va dans le mur. Parce que le changement climatique, la combustion de pétrole, le déclin de la biodiversité, et vous avez des forces réactionnaires en face qui utilisent effectivement tous les moyens que vous décrivez très bien. J'en ajouterai juste un, le financement des médias, pour parler très clairement. Vous avez aujourd'hui des forces réactionnaires, je vous apprends rien, qui cherchent à s'emparer du capital d'un centre de... Encore ce matin, on parlait d'un quotidien très connu qui pourrait effectivement... Et tout ça est très inquiétant pour la liberté des journalistes et pour les recrutements à venir de journalistes, bien entendu.
Et le droit d'être informé.
Oui, bien sûr. Et à l'intérieur de ces techniques figurent effectivement ces procédures Bayon. Ces procédures Bayon qui viennent effectivement participer de ce qu'on pourrait appeler une guerre. Je recommande l'excellent bouquin de Liora Israël aux éditions de Sciences Po sur l'arme du droit. Et on voit ce langage belliqueux qui s'est développé effectivement. Alors, ceci étant, avec un débat au sein des associations elles-mêmes, dont j'ai fait partie dans ma jeunesse, c'est-à-dire par rapport à ces attaques, par rapport à ces stratégies belliqueuses de certains acteurs économiques et politiques, parfois totalement liés les uns les autres, est-ce qu'il faut se placer sur le même terrain, c'est-à-dire utiliser le même langage belliqueux, le même langage guerrier, etc., etc. C'est un débat que j'ai bien connu à France Nature Environnement. Voilà, ma position, c'est que à un moment donné, c'est un peu dommage parfois d'aller se placer sur le même terrain que ces gens-là, parce que ils peuvent aussi le récupérer, caricaturer l'action des associations ou des opposants en disant, vous voyez, en fin de compte, c'est qu'une histoire de guerre entre camps. Or non, c'est pas deux camps. C'est pour ça que voilà, la question de l'arme du droit et du lawfare est une question très complexe, on n'aura pas le temps de l'investiguer complètement aujourd'hui. Le mérite du livre, c'est d'en parler, mais effectivement, il y a encore, je pense, plusieurs chapitres à rajouter pour que vous puissiez aller au-delà dans l'analyse.
Dans une version augmentée, pourquoi pas, et ce sera encore plus passionnant. Arnaud Gaussemain, je rappelle aux auditeurs que vous êtes donc avocat et professeur associé en droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et spécialiste de ces questions de droit public et droit de l'environnement. En tant qu'avocat, vous avez été vous-même approché pour mener des procédures Bayon. Dites-nous en quoi ça consiste finalement. C'est quoi, poursuite en diffamation, dénigrement, enfin ça recouvre quoi?
Alors le mérite de votre livre, que j'ai vraiment trouvé absolument remarquable, sans fausse flatterie, c'est que vous décrivez, alors pour les non-juristes, ça sera peut-être un petit peu difficile, vous décrivez quels sont, on va dire, les textes, les fondements juridiques d'une action qui permet de réduire au silence une autre partie. Sachant que l'intérêt de la procédure, c'est la procédure elle-même. Inès Leroux le disait tout à l'heure, c'est pas l'issue, parce qu'on va souvent se désister avant l'audience dans la quasi-totalité des cas en matière de diffamation. L'intérêt, c'est de faire peser une procédure sur quelqu'un, l'obliger à prendre un avocat, l'obliger à dépenser de l'argent, l'obliger à stresser, l'obliger à perdre du temps, etc., etc., etc. Donc l'intérêt de la procédure, c'est la procédure elle-même. On peut l'intenter sur le fondement de la diffamation, du dénigrement, du droit au secret des données, le RGPD, tout ça, etc., etc. Donc ces procédures sont assez... Alors moi, effectivement, ça m'est déjà arrivé, puisque je conseille des associations, mais aussi des entreprises, il m'est arrivé que des dirigeants me disent... Telle association qui a attaqué, par exemple, un projet immobilier, qui s'est déversée dans la presse pour dire que notre projet, c'était un projet négatif pour l'environnement, etc., etc. On va faire un procès en diffamation. Alors, moi, j'en ai jamais personnellement engagé. Je critique pas du tout les confrères qui ont des choix autres que les miens. Pour une bonne raison, c'est que la plupart du temps, ce choix d'engager ces procédures, alors, elles vont avoir pour effet, effectivement, de fatiguer la personne en face. Ça, c'est le court terme. Mais à long terme, elles sont stupides. Parce que si on regarde bien au final, eh ben, ça donne le droit à votre entreprise d'être citée dans votre livre de manière négative. Ça donne une tribune parfois à des opposants, etc. etc. Tout ça pour quoi ? Tout ça pour souvent, à l'intérieur de l'entreprise, une fracturation entre les salariés qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des personnes d'une même entreprise se fâcher entre eux sur le mode « moi, je veux qu'on le fasse, moi, je veux pas qu'on le fasse ». Parce qu'une entreprise, surtout sur les grandes multinationales, c'est aussi des milliers de personnes qui n'ont pas forcément toutes les mêmes valeurs, les mêmes convictions, les mêmes engagements, etc., etc. Donc en fait, c'est aussi un facteur de division dans une entreprise qui me paraît complètement inutile. Pour quel but ? Effectivement, faire preuve de violence. Mais cette violence-là, une fois qu'elle a été consommée, ça sert à quoi ?
Oui. Et en même temps, on voit bien que, visiblement, le procédé est de plus en plus utilisé. Sophie Lemaitre, dites-moi si je me trompe. Ces procédures bâillons.
Oui, et ben c'est pour là clairement le but, c'est quoi ? C'est d'intimider, de dissuader. Si vous attaquez une association qui est petite, peut-être que les autres associations vont se dire je vais pas aller sur ce terrain-là parce que je risque moi d'être poursuivie en justice. Inès, vous racontiez voilà en tant que journaliste freelance, vous êtes plus vulnérable que peut-être des journalistes qui vont travailler dans des grandes rédactions comme Le Monde ou d'autres qui vont avoir des services juridiques qui vont pouvoir mettre les moyens en fait pour accompagner les journalistes. Et donc peut-être qu'en fait, il y a d'autres journalistes comme vous qui vont dire « mais je ne vais pas, moi, travailler sur ce sujet-là parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir faire face à ces poursuites bâillons ». Donc oui, c'est procédural, mais vraiment, l'idée, c'est d'intimider. Et avec le livre, j'ai voulu en fait vraiment décortiquer en essayant que ce ne soit pas trop juridique, justement, que ce soit le plus accessible possible pour que tous les lecteurs et les lectrices puissent reconnaître, en fait, après, quand ils entendent à la radio, à la télé, qu'ils le lisent dans la presse, qu'ils se rendent compte, ah oui, ça, c'est, en fait, c'est une poursuite bâillon, et qu'ils sachent la reconnaître et qu'ils sachent ce que c'est, quels sont les différents mécanismes. Et puis, c'était aussi pour montrer la créativité, en fait, de ces différents acteurs économiques. Là, j'ai surtout, sur les questions des poursuites bâillon, regardé voilà, les entreprises. On voit que la diffamation, par exemple, la poursuite en diffamation, c'est la poursuite bâillon par excellence, mais on commence à avoir, en fait, des poursuites en dénigrement, parce que c'est devant les tribunaux de commerce qui sont moins sensibilisés à la question de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, et qui vont peut-être rendre des décisions beaucoup plus strict, beaucoup plus dur que ce que le tribunal aurait fait si ça avait été un autre tribunal devant le tribunal correctionnel avec la diffamation. Et donc dans le livre, je donne l'exemple de Valérie Murat et de son association Alerte aux Toxiques qui a été condamnée à verser, je crois, au total 148 000 euros, en partie des dommages et intérêts et en partie des frais de justice. Mais là, récemment, au mois de juin, l'association Bloom, qui travaille sur les questions de pêche, de protection de l'océan, fait l'objet d'une procédure en dénigrement. Et là, le Comité national des pêches, alors j'ai plus le nom exact, donc vous m'excuserez, mais la plainte demande 600 000 euros de dommages et intérêts. Donc, si l'association Bloom venait à être condamnée,
j'allais dire à l'américaine. L'américaine, c'est même des millions, mais
oui. Donc, on est sur des montants quand même énormes et bien évidemment
les. Pour tuer les associations.
Oui. Tout à fait.
Alors, il y a aussi la censure préalable. C'est demander à des journalistes ou des rédactions de ne pas sortir d'articles. Là aussi, c'est une autre façon de bâillonner.
Oui, alors en France, on a eu deux exemples. Un avec Mediapart. Et heureusement, la décision, après, il y a eu le tribunal a ordonné qu'il n'y ait plus d'articles sur l'enquête que Mediapart menait. Puis après, ça a été la décision, elle a été contredite. Donc Mediapart a pu à nouveau publier. Et puis on a eu aussi le cas de Altice contre Reflet.info. Donc Reflet.info avait mené en fait une enquête sur des données qui avaient été piratées, des données d'Altice qui avaient été piratées par des pirates, donc une cyberattaque. Et Altice avait intenté une action au nom du secret des affaires, et parmi les demandes, c'était de demander la censure, enfin l'interdiction pour Reflet.info de continuer à publier d'autres articles sur ces données qui avaient été piratées par ces hackers. Donc on a une première décision effectivement qui empêche Reflet.info de publier ses enquêtes, et heureusement en appel, enfin par la suite, ça a été levé et donc Reflet.info a pu publier. Mais normalement, avec la liberté de la presse, il ne devrait pas y avoir. On a la loi sur la liberté de la presse qui a été écrite, rédigée, adoptée dans l'objectif qu'il n'y ait plus jamais de censure. Et donc là, on voit un retour de la censure, et c'est très inquiétant.
Arnaud Gossement, peut-être, sur ce retour de la censure, ou est-ce que vous le
ressentez aussi? Oui, très clairement, par les différents moyens, parce que des procédures bâillons stricto sensu, il y en a trop, mais je veux dire, une c'est déjà trop, mais rapportée au stock du contentieux, on pourra toujours relativiser. Mais elles viennent, et c'est le mérite du livre, parmi d'autres instruments, participer de cette censure, de cette silenciation, oui, très clairement. Je donne juste un exemple, juste pour montrer que parfois, ces procédures bâillons, certes, déclenchent de la violence, qui est inacceptable, mais parfois sont totalement stupides. C'est l'exemple de l'association Canopée. C'est une association qui a une expertise sur les forêts, qui est absolument incontestable, et qui fait de mal à personne, et qui fait du bien à la planète, et donc à nous-mêmes. Et vous avez effectivement une guerre qui s'est engagée entre un certain, je dis pas tous, représentant de la filière forestière, et cette association qui dénonce une gestion peu durable des forêts, je la fais courte. Et ils ont attaqué l'agrément de cette association, vous racontez très bien hein, dans votre livre, page 86 et suivant. Mais au final, là où l'association avait un agrément implicite...
Donc c'est le livre de Sophie Lemaître, je le dis pour nos auditeurs qui ne vous voient pas ouvrir et montrer le livre.
Je suis en train de regarder.
Voilà, c'est ça. Réduire au silence, paru rue L'Échiquier.
Eh bien, en fin de compte, il y a eu une tribune qui a été offerte à cette association. Son agrément, en fin de compte, va devenir encore plus solide et incontestable qu'avant, parce qu'ils ont mené cette action qui, à mon avis, n'a aucun intérêt d'aller jusqu'au bout. Donc on voit aussi que parfois, ces actions-là, je ne vois pas en quoi elles peuvent parfois servir les intérêts de ceux qui les engagent, parfois, je pense, maladroitement. Quoi.
Après, pour certaines entreprises, c'est aussi communiquer, envoyer un message aux actionnaires, on imagine, aux salariés, aux investisseurs, aux partenaires, aux clients.
Oui, c'est dire qu'on Sophie fait quelque Lemaître. Chose. Par exemple, on va intenter une action en justice juste avant une assemblée générale. Oui. Et donc, ça permet de dire, voilà, je fais quelque chose. Ou bien de communiquer sur les réseaux sociaux et de se donner une image, en fait, et d'oublier, d'oublier quelle était... Ça permet de ne pas discuter du fond du problème. Ça permet de ne pas discuter quand... Total Energy, par exemple, a poursuivi Greenpeace France sur le rapport que Greenpeace avait sorti sur la méthode, le bilan carbone de l'entreprise, d'annoncer une poursuite. Ça permet de ne pas discuter du fond. Pourquoi l'entreprise, en fait, n'a pas publié sa contre-analyse en disant, voilà, l'entreprise n'était pas d'accord avec les calculs de l'association. Bah, certes, pourquoi ne pas publier une méthode? Non, ils ont choisi de poursuivre l'organisation, et à la fin, la procédure s'est terminée. Elle a été... elle a été annulée, une nullité de la procédure, mais pendant ce temps-là, en fait, on n'a pas discuté du fond du sujet. Ah, oui. On détourne l'attention, en fait, sur le fond et sur l'enquête, ce qu'on a trouvé, les conséquences de l'algue verte, des algues vertes, ou la pollution dans les rivières, ou la manière dont on doit lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Arnaud Gossement.
Oui, juste sur cette affaire Total contre Greenpeace, j'aurais juste peut-être une toute petite nuance à apporter, c'est que Je trouve au contraire qu'on n'a jamais autant parlé de ce rapport grâce à cette action de cette société totale contre l'association Greenpeace en réalité. Et en plus, à la fin, une issue quand même assez pathétique, puisqu'au final, ils n'auraient même pas dû l'engager, cette association, selon le juge lui-même. Donc franchement, en termes d'analyse préalable de cette action, je pense que cette société réfléchira deux fois avant de la refaire, puisqu'au final, le résultat est contre-productif pour elle. Ce qui n'empêche pas que la tentative d'intimidation qui est derrière n'est pas acceptable. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Et puis bien sûr, les effets se font sentir quand même sur le travail mené par les journalistes. Je vous propose d'écouter Morgane Large, dont on a déjà parlé dans l'émission du Média Asplan. Elle s'exprimait ainsi dans un reportage diffusé sur l'AFP le 7 avril 2021.
J'ai pas l'impression de dire des choses si graves que ça, mais j'écorche le roman agricole national et c'est ça le problème. Le roman agricole national et encore plus régional, c'est de dire on nourrit la planète... Les produits français sont les meilleurs au monde, les produits qu'on utilise sont autorisés, l'agriculture a énormément évolué, enfin, on entretient le paysage. Je ne me sens pas très protégée en vérité. Je me sens protégée aussi par le soutien de tous ces gens-là, mais après on se retrouve seul chez soi, c'est moins facile, je suis beaucoup sur les routes, je ne sais pas, j'imagine plein de trucs parce qu'on sombre vite dans la paranoïa, bien que j'essaye de m'en préserver.
Morgane Large, voilà, Inès Leroux, vous la connaissez bien, elle parle justement de des états dans lesquels on peut sombrer aussi. On voit bien que ces procédures Bayon, elles gagnent psychologiquement aussi sur les personnes qui sont victimes de ces procédures.
Là, elle parlait en 2021 suite à un deuxième déboulonnage de roues. Elle parle depuis Rostronin où 1000 personnes s'étaient réunies pour la soutenir, ce qui est un nombre impressionnant au vu de la petite commune qui est Rostronin. Et effectivement, c'est des moments où on peut basculer dans la paranoïa. Et en fait, 2021, là, c'était juste après la fameuse signature de la convention Déméter, signée par le ministère de l'Intérieur, le syndicat agricole productiviste, la FNSEA, et la gendarmerie nationale, pour lutter contre les atteintes, y compris symboliques, à l'agriculture industrielle. Et cette cellule a le pouvoir de collecter du renseignement, de surveiller les défenseurs de l'environnement. On a vu à partir de là des confrères, des consoeurs qui se retrouvaient à être perquisitionnés par cette cellule de gendarmerie qui venait effacer par exemple leur bande radio, leurs enregistrements. Et on a vraiment eu cette sensation que, en fait, cette puissance agroalimentaire qui est déjà forte, bien structurée, avec énormément de lobbies, qui nous attaque en diffamation, qui a des juristes, etc., sa puissance était encore renforcée, alors que nous, les journalistes et lanceurs d'alerte, lanceuses d'alerte en face, déjà vulnérables, notre fragilité était aussi renforcée. Donc c'était un moment où effectivement on pouvait, par exemple dans le cas de Morgane Large, elle a demandé simplement un numéro d'urgence à appeler ses enfants quand ils étaient seuls chez eux sans elle, parce qu'il y avait des intrusions chez elle, son chien avait été empoisonné, ses enclos où sont ses animaux avaient été ouverts, etc. Et elle ne l'a pas obtenu. Enfin, on n'avait même pas de moyens pour se défendre, et donc ça crée un grand déséquilibre des rapports de force et un grand déséquilibre psychologique aussi. Et c'est des moments où effectivement on a eu besoin de soutien psychologique, de soutien, enfin au-delà du soutien juridique, et on a eu besoin de monter un média qui s'appelle Splend, dont vous parliez, qui réunit des dizaines de journalistes, et maintenant on travaille en équipe, on ne travaille plus de manière solitaire. Et c'est aussi le moment...
Et qui a été attaqué aussi, non ? Par des procédures.
Voilà, récemment, pour un article que j'ai écrit avec mon confrère Christine Falleron sur le lobby porcin qui s'appelle Copains comme cochons, on a été attaqué encore en diffamation par une figure de proue du monde du porc en Bretagne. Mmh. Et heureusement, déjà, on a pu voir qu'il y avait un vice de forme, et donc on a pu se défendre immédiatement et pas s'enfoncer.
Et faire annuler la procédure.
Et en fait, ce que disait Arnaud Gossemann, c'est qu'effectivement, il peut y avoir parfois des effets stressants, donc en fait, des effets bénéfiques à ces procédures en diffamation. Mmh. Et par exemple, dans le cas de cette dernière procédure,
Ce plan a été énormément soutenu par sa communauté de lecteurs et de lectrices et on a reçu 70 000 euros de dons, oui. Ce qui nous a vraiment permis de lancer d'autres enquêtes et de rebondir. Et...
Oui, parce qu'on a compris que l'argent est aussi une autre arme hein, dans ces batailles-là et que pour des petites organisations, des petits médias ou des associations, il faut aussi tenir et que cette solidarité semble se faire. Petite question avant la musique que nous a choisie Alexandra Malka, et puis surtout de basculer dans la deuxième partie, et on va s'intéresser à l'État aussi, face à ces procédures-là et à l'usage du droit. Arnaud Gaussman, face à une action en justice abusive, que se passe-t-il? Est-ce que finalement ceux qui en ont abusé risquent des amendes ou alors il y a une impunité face à la méthode?
Alors, la situation diffère selon le juge devant lequel la scène se déroule, que ce soit le juge judiciaire ou administratif. Les choses ne sont pas identiques. Le problème, c'est qu'en France, et c'est heureux, le droit de saisir un juge, le droit d'ester en justice, doit absolument être protégé. Hein, dans un état de droit, le juge doit être saisi pour dire quel est le droit. Et donc, il faut faire attention, parce que au nom de la lutte contre les procédures abusives, il faudrait pas non plus qu'on en vienne, par exemple, à décourager des actions d'associations. Aujourd'hui, oui. Par exemple, vous avez tout un ensemble de députés qui régulièrement proposent dans la loi des mécanismes pour interdire à des associations d'attaquer des permis de construire, parce que, vous comprenez, c'est des procédures abusives qui ralentissent les projets immobiliers. Le problème est très complexe. Parce que, en réalité, à l'intérieur de ces associations, vous avez effectivement, parfois, des associations un peu spontanées. Hein, je parle pas des associations avec pignon sur rue, qu'on cite, des associations un peu sorties de nulle part, qui, au nom de l'environnement, en réalité, défendent des intérêts purement privés. Et il peut y avoir aussi, en tant qu'avocat, je l'ai vécu, des chantages. Sous-entendu, j'ai introduit un recours, si vous me donnez telle somme, je retire mon recours. Hein, il y a même des personnes qui ont pu en vivre de ça. Je parle d'une minorité et qui ne remet pas en cause la légitimité et l'utilité, le caractère très précieux de l'action de l'ensemble des associations. Mais ça alimente effectivement une vindicte de certains élus qui se disent « Regardez, il faut interdire les procédures abusives, mais cette fois-ci non pas la procédure dont par exemple fait l'objet Inès Leroux, mais une entreprise en particulier qui a un projet immobilier. » Donc le problème est complexe. Aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas... Alors, il y a des possibilités de sanctions pour procédures abusives rarissime. On n'a pas encore trouvé la clé pour lutter contre ces procédures et en même temps préserver le droit d'ester en justice.
Sophie Lemaître.
Mais on va avoir une première réponse puisque en 2024, on a une directive européenne pour lutter contre les procédures altérant le débat public abusive ou infondée a été adoptée. Elle doit être transposée en droit français d'ici mai 2026. Donc elle énumère un certain nombre de critères pour déterminer ce qu'est une poursuite bâillon. Ça va être par exemple de regarder le montant des dommages et intérêts qui est demandé, le déséquilibre des forces. Est-ce que le requérant, celui qui a déposé plainte, qui a lancé l'action, est-ce qu'il multiplie les recours? Est-ce qu'il essaye d'épuiser toutes les voies de recours? Est-ce qu'il essaye de retarder l'action, etc.? Donc on a un certain nombre de critères. Et par la suite, en fait, on aura la possibilité, si une association, si un journaliste fait l'objet d'une poursuite bâillon, de demander un rejet rapide auprès du juge, de demander à ce que le requérant verse une caution pour prévenir, en fait, éviter ces procédures abusives. Et ça va être aussi au requérant, en fait, de démontrer que sa procédure n'est pas abusive. Donc, on va pouvoir avoir, en fait, un cadre, un certain nombre de garanties qui vont pouvoir nous aider. Le problème, c'est que cette directive ne s'applique qu'aux procédures de nature civile et commerciale. Donc, tout ce qui est procédure pénale, donc, par exemple, les diffamations, ou beaucoup de procédures en France, elles se font en matière pénale, eh bien, elles sont exclues. Et en plus, il faut que ce soit des procédures qui soient transfrontières, donc des procédures franco-françaises, seraient exclues de la directive. Donc, il sera vraiment très important que la France aille plus loin dans la transposition pour qu'en fait, toutes les formes, tous les types de poursuites bâillon soient bien couvertes par ce mécanisme de garantie. Mais on a déjà une première étape.
Arnaud Gaussman, rapidement.
Oui, sur cette directive, pardon, non seulement effectivement les procédures pénales sont écartées, mais elle est quand même très décevante, puisque quand vous lisez les articles, c'est les États peuvent, il n'y a aucune obligation. Et il n'est même pas certain que la France la transpose, hein, parce que vous avez un certain nombre de personnes pour penser qu'on a déjà tout ce qu'il faut, à commencer par la consignation, qui n'a jamais empêché, objectivement, la consignation. Quand vous êtes une entreprise avec un chiffre d'affaires colossal, c'est pas ça qui... Vous voyez, c'est même un droit à détruire, quelque part. Hein. Donc, je suis un peu pessimiste sur l'avenir de cette... Je pense que votre livre peut ouvrir, au contraire, un vrai débat sur qu'est-ce qu'on doit faire dès le début de la procédure. Est-ce qu'on doit donner la possibilité à un juge de dire, à l'évidence, là, je suis face à une procédure qui est une procédure bâillon. Le problème, c'est qu'il y a des fois où c'est évident, et il y a des fois où les gens avancent masqués, derrière des collectifs parfois un peu... ils peuvent agir de manière indirecte contre des personnes, et ça suppose une instruction derrière pour le vérifier. C'est pas toujours facile.
Donc des moyens pour la justice. Allez, on en profite aussi pour passer le message.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Nous a égarés là. Nous n'avons fait qu'obéir. Nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'abîment. À l'horizon, rien ne brille. Aube froide et mon monde pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre.
C'est Stéphane Echer, Poussière d'or, c'est le choix de Alexandra Malka. Voilà, un petit clin d'œil. Et oui, le petit clin d'œil tout sourire derrière la vitre, avec notre technicien aussi, la belle équipe que je salue bien évidemment. Et c'est notre sujet aussi du jour, David contre Goliath, ou quand des alerteurs, des journalistes et des défenseurs de la planète se retrouvent victimes d'un lawfare. Nous en discutons avec Sophie Lemaître, juriste, auteur de Réduire au silence, titre du livre paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Inès Léraud, journaliste d'investigation, autrice de Algues vertes, l'histoire interdite, paru aux éditions Revue dessiné Delcourt, et puis Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, les années 50, etc., histoire plongée dedans, c'est vraiment fabuleux, paru également aux éditions Delcourt, et puis Arnaud Gosseman, avocat et professeur associé en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste en droit public et droit de l'environnement. Alors, du côté des États, comment réagit-on face aux alerteurs, aux activistes, aux ONG, aux associations, aux journalistes, partout en direction de la Grande-Bretagne, avec ce reportage diffusé sur France 24 le 4 juillet 2025.
Leurs actions coup de poing ont fait le tour du monde. Jets de soupe sur les tournesols de Van Gogh, de peinture sur les menhirs de Stonehenge. Mais ces actions écologistes parfois radicales, c'est fini. Le gouvernement britannique a décidé de riposter de la manière forte des peines de prison ferme pour les manifestants. En 3 ans, plus de 3000 arrestations.
Les peines de prison qu'on reçoit sont astronomiques. C'est devenu difficile de continuer.
Ma fille est allée en prison 2 fois depuis qu'elle a 19 ans. Il est temps que les gens ne soient plus arrêtés.
Même ceux qui n'ont participé qu'à des actions non violentes, sans dégradation, risquent la prison. C'est le cas d'Andrew Dames.
Ça, c'est le portique d'autoroute sur lequel je suis monté. En zoomant, on me voit en orange, en train d'être délogé par la police.
Pour ces faits-là, cet ingénieur, père de 4 enfants, encourt aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison pour nuisance publique.
Évidemment, ça fait peur, vraiment peur. Personne n'a hâte d'aller en prison. Si on avait dit aux gens il y a quelques années qu'en manifestant pacifiquement, on risquerait 10 ans de prison, ils auraient été stupéfaits.
Le Royaume-Uni qui a durci ses lois, qui voit des condamnations et des sanctions plus dures hein, prises à l'encontre de militants écologistes, pas que peut-être d'ailleurs, hein, Sophie Lemaître.
Oui, alors la France est considérée comme le pays le plus répressif en matière policière au niveau européen et le Royaume-Uni, c'est au niveau judiciaire.
Oui.
Et donc on a de plus en plus de condamnations de défenseurs de l'environnement à des peines de prison fermes et on ne parle pas de quelques mois, on parle de plusieurs années. Très récemment cette année, on a 16 membres de l'organisation Just Stop Oil qui ont été condamnés en appel à des peines de prison. Alors la cour d'appel a très légèrement réduit les peines de prison. On va parler de 1 ou 2 mois. On est vraiment sur quelque chose de très bas.
Il faut peut-être rappeler, hein, c'était donc ces activistes qui jetaient de la soupe ou du produit sur les vitres qui protégeaient des œuvres d'art.
Par exemple, ou bien qui bloquaient le trafic routier pour dénoncer en fait l'attribution de permis pétroliers au Royaume-Uni. Donc on a des sanctions très sévères et puis on a le Royaume-Uni aussi qui adopte des lois et notamment qui interdit le fait de s'attacher à une autre personne, à un objet ou à un bâtiment et d'être équipé pour. Alors si on caricature, le fait d'avoir son cadenas et l'antivol du vélo, en fait on pourrait être sanctionné, on pourrait tomber sur le coup de cette loi. Donc on a de plus en plus en fait de lois adoptées pour empêcher ces modes d'action qui viennent dénoncer la destruction de la planète. Donc ça, c'est au Royaume-Uni, mais on le voit aussi en Italie, en Allemagne et aussi en France.
Et aussi, de façon concomitante, ou en tout cas parallèlement, une rhétorique discriminante qui présente les défenseurs de l'environnement comme des dangers, des menaces pour la démocratie. Comme en France, on pense forcément à ces termes utilisés dans le monde politique et qui, on voit bien, nourrissent quand même de la haine et de la violence, hein. Éco-terroristes, taliban vert, khmer vert, criminels écologistes, les ayatollahs de l'écologie, etc. etc. Peut-être votre regard aux uns et aux autres sur cette atmosphère-là hein, qui nourrit aussi les phénomènes, la situation. Inès Leroux.
En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à la lecture de Réduire au silence, j'ai trouvé que cette lecture a été essentielle pour moi. J'ai trouvé très accessible et aussi ça permet de faire un constat sur quand même l'affaiblissement de nos démocraties, la façon dont elles vont mal et dont la pente vers et on est sur une mauvaise pente vraiment et avec énormément de comparaisons internationales et c'est assez saisissant de prendre ce recul et de se rendre compte. Il y a aussi des propositions à la fin pour essayer de sortir de la sidération et en tout cas effectivement à la fois la criminalisation des personnes qui essaient de travailler sur les questions environnementales et de lancer l'alerte, et aussi un certain silence en fait du monde politique sur la violence que l'on peut subir, ça engendre vraiment un climat favorable à de nouvelles exactions, quoi. Donc et je voulais parler dans ce cadre-là d'une autre violence subie par une autre consoeur, Hélène Servel, journaliste indépendante elle aussi qui travaillait pour Envoyé spécial et qui a été agressée avec l'équipe dans les Bouches-du-Rhône alors qu'elles enquêtaient sur l'exploitation de main-d'œuvre illégale dans des très très grosses exploitations, enfin une grosse exploitation de plus de 3000 hectares, et elles ont l'agriculteur au volant du pick-up a foncé sur l'équipe, s'est arrêté à 2 mm de leur genou, il a balancé leur matériel, etc. Donc il y a vraiment un climat qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années encore. Moi, il y a quelques années encore, quand je suis allée m'installer en Bretagne, on me disait, mais t'as pas peur de recevoir des colis piégés? Et je disais, mais non, mais on n'a jamais vu, pour l'instant, en Europe, de journalistes agressés avec une atteinte à leur intégrité.
Physiquement, des envois de cercueils ou des menaces, historiquement, je crois qu'il y a eu quand même.
Mais il n'y avait pas d'agression.
Pas cette atmosphère dont vous parlez.
Ouais, pas d'agression physique et d'atteinte à l'intégrité physique. Et oui. Ça, depuis 2017, on le voit de plus en plus en Europe et en France.
Oui, il faut d'ailleurs, pour parler personnellement, si je peux me permettre, Inès Leroux, c'est que sur votre page Wikipédia, je crois qu'à un moment, quelqu'un avait fait en sorte de préciser que vous étiez déjà morte. Ce qui est toujours très sympathique. Pour aller plus loin, et avant de vous donner la parole, Arnaud Gospan, je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. En octobre 2022, il désigne le collectif Les Soulèvements de la Terre d'éco-terroristes et puis il a appelé à sa dissolution. Écoutez ce reportage diffusé sur l'AFP le 20 juin 2023.
Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre.
Voilà cette demande de dissolution. Alors on parlait de violence, il faut aussi préciser que dans certaines scènes, il a pu y avoir du côté ou des alerteurs ou des défenseurs de l'environnement, des individus violents qui s'intègrent et puis qui aussi génèrent de la violence des deux côtés. Faut pas l'oublier, bien sûr. Arnaud Gossman.
Il y a toujours eu de la violence envers les mouvements écologistes qui, grosso modo, en France, émergent à partir de 68. Les premières grandes associations ensuite en France, France Nature Environnement, qui s'appelait à l'époque la Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature, les Amis de la Terre France, etc., c'est les années 71 ensuite, ça correspond au ministère de l'Écologie. Dès le début, il y a effectivement une mise en cause de ces personnes et des manifestations, notamment anti-nucléaires. On se rappelle le drame de la mort de Vital Michelon, etc. Ouais. Il y avait des mouvements parfois de répression dure de l'expression et des manifestations. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est aussi parce que en face, l'écologie est peut-être plus présente avec des hauts et des bas dans le discours médiatique.
Et qu'il y a une urgence aussi climatique, environnementale.
L'urgence existait déjà, mais on prend un peu plus conscience aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Mais c'est vrai qu'en face, on a un discours d'une certaine droite réactionnaire, pour ne pas citer des gens comme Laurent Wauquiez, qui en Auvergne-Rhône-Alpes se vante de priver les associations, pourtant des associations qui mènent des combats, je pense, ou même pas des combats d'ailleurs, qui œuvrent pour l'intérêt général sur place, qui se vantent effectivement de ce combat anti-écolo, tout un discours d'appel à la haine sur les écologistes qui est absolument insupportable et qui se développe de manière tout à fait impunie, assumée, et avec effectivement une utilisation du droit. Alors par exemple, cette idée de dissolution, objectivement, dès le départ, il ne pouvait que savoir, le ministre de l'Intérieur, que ce décret de dissolution ne remplissait pas les conditions d'une loi pourtant voté par sa famille politique, et le Conseil d'État a d'ailleurs très rapidement fait sauter...
D'abord suspendu le décret en août 2023 et annulé la dissolution le 9 novembre 2023.
Pourtant, le Conseil d'État n'est pas toujours le premier à suspendre en référé les décisions de l'État, mais là, pour dire à quel point cette décision était d'avance en fait condamnée, parce que strictement illégale, donc c'est quand même assez curieux de se prévaloir du droit en prenant une décision illégale, soi-disant pour... Il y a quelque chose de totalement contradictoire dans cette affaire-là. Et c'est vraiment dommage. Il y a aussi, si vous me permettez, un autre point, pour rebondir sur ce que Inès Leroux parlait, dont vous parliez tout à l'heure, pardon, je vais y arriver, à propos des manifestations. Il y a aussi parfois... il faut prendre en compte qu'une entreprise, c'est un objet complexe, avec des dirigeants qui d'ailleurs peuvent se succéder. Les dirigeants d'hier ne sont pas forcément les dirigeants de demain. Il peut y avoir des débats parmi les dirigeants. Et puis il y a des salariés dans lesquels il peut aussi y avoir un discours. Il faut faire attention lorsque on attaque une entreprise et qu'on se place sur le terrain de la guerre contre le droit, de la guerre par le droit, au fait que vous pouvez effectivement stigmatiser des gens dans l'entreprise et que ça peut arranger des personnes qui dirigent l'entreprise dans un mauvais sens. Je prends l'exemple qui a fait l'objet d'une enquête dans un hebdomadaire, là, ce week-end, sur les salariés des abattoirs.
Oui.
Et effectivement, on voit que ce sont des personnes qui sont déjà ultra stigmatisées, qui travaillent dans des conditions de précarité, de rémunération absolument insupportables.
Et qui sont elles-mêmes beaucoup en souffrance.
Qui sont en souffrance personnelle, morale, physique, dont on parle très très peu. C'est vraiment le peuple du silence. Beaucoup de main-d'œuvre étrangère qui ne s'exprime pas, peut syndiquer, etc. Ils se sentent stigmatisés par le discours anti-viande écologiste. Et pourquoi? Parce que effectivement, il y a aussi des dirigeants qui vont leur dire « Regardez, c'est vous qu'on critique, regardez ces écologistes qui s'en prennent à vous. » Alors que non, en fait, personne s'en prend à ses salariés. Mais voilà, il peut y avoir aussi une utilisation propos qui viennent des associations qui sont déviées de leur objectif à ce type de fin.
Inès Leroux ?
Non, je voulais simplement dire que Réduire au silence de Sophie Lemaître recense des cas, enfin le droit perverti pour bâillonner les médias ONG, bien au-delà de la question environnementale. Le livre fait le constat d'une réduction des démocraties à tous les niveaux et recense aussi, par exemple, les atteintes aux droits de journalistes qui enquêtent sur les exportations d'armes à l'étranger. Et ce constat, il est partagé par d'autres observateurs et c'est aussi dans ce cadre qu'est né l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, oui, en 2023, qui essaie bénévolement, sans subvention, etc., parce que Sophie Lemaître raconte comment c'est difficile de créer, de faire perdurer des associations aujourd'hui, dans le climat actuel, essaie de recenser les atteintes sur le territoire français, pays des droits de l'homme et de la liberté de la presse, recensement qui n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et donc, tant bien que mal, en dehors de leurs horaires de travail, ils essaient de sortir ce premier rapport bénévolement pour ensuite essayer de trouver des subventions pour réaliser les rapports suivants et essayer de pouvoir documenter et effectivement pouvoir dire concrètement si effectivement il existe une accélération des atteintes au droit de la presse.
Intéressant d'ailleurs de porter notre regard sur les coalitions qui se constituent. Sophie Lemaître, on a compris qu'en Bretagne, il y avait aussi cette façon de se souder et puis de faire corps à plusieurs. Vous parlez beaucoup dans votre livre de coalition, de développement des alliances, fédérer, collaborer. Vous parlez bien sûr de Forbidden Stories, mais de d'autres. C'est aussi par ça qu'on peut agir finalement comme une sorte de rempart.
Oui, travailler, être ensemble. Alors en France, donc on a l'OFALP, mais on a aussi l'Observatoire des libertés associatives qui vise à recenser en fait toutes les atteintes aux libertés associatives. On a des coalitions de médias. On a par exemple Coop Média qui vise à réunir tout un ensemble de médias indépendants. Donc travailler ensemble, c'est vraiment important que les médias travaillent ensemble, les médias aussi avec les ONG et que nous, citoyens aussi, on soit là pour soutenir, accompagner les journalistes, les ONG dans leur travail, comme on peut avec le temps qu'on a, et c'est ce que j'ai essayé à la fin du livre. Parce que
le biais de pétitions, on l'a vu dans le cadre de la loi Duplomb.
Oui, moi, quand j'ai signé par exemple la pétition, il y avait 20 000 personnes, et puis d'un coup, ça a fait un bond, et moi, j'étais joyeuse, je me disais, mais c'est génial, il y a un mouvement en fait, il y a plein de gens, et on est plein à s'inquiéter de ce qui arrive à notre planète, à notre santé, etc. Et je suis persuadée aussi qu'il y a plein de personnes qui s'inquiètent de ce qui arrive aux médias, aux journalistes, aux associations, aux lanceurs d'alerte. Et donc je voulais aussi à la fin, avec le livre, c'est de donner des idées de pistes et de se dire, on sait que on est occupé, on a une famille, on a un travail, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais il y a des petites choses qu'on peut faire pour soutenir la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'association. Donc, travailler ensemble, collaborer, fédérer, c'est super important.
Arnaud Gossement, il y a des magistrats et des avocats aussi qui font l'objet d'attaques de toutes parts. Le droit est utilisé contre eux. Ça vous fait réagir comment?
Oui, on a franchi un cran, je trouve, avec l'affaire de la 69, cette autoroute qui suscite une opposition qui a donné lieu à un premier jugement d'un tribunal administratif à Toulouse, lequel a annulé l'autorisation de faire les travaux, pour faire très simple. Et moi, j'ai été sidéré de la part de ministres, de politiques, dans la presse, des gens qui, sans vergogne, s'en sont pris aux juges qui ont rendu cette décision. Et c'est allé très loin, puisqu'il y a une journaliste qui s'est même permis de faire des commentaires sur le fait que la rapporteure publique, alors en plus c'était totalement stupide parce que la rapporteure publique n'avait pas rédigé le jugement, elle avait proposé une solution à l'information de jugement. Donc manifestement cette personne ne connaissait pas la procédure. Mais bref, elle s'en est prise au fait qu'elle était jeune, que c'était une femme, qu'elle avait plusieurs dossiers que vous comprenez peut-être sous-entendu, elle n'avait pas dû consacrer beaucoup de temps, sinon elle serait arrivée à un raisonnement autre. Et là, oui, on commence à s'en prendre à des juges dans ces affaires-là. Et plus grave que ça encore, le Parlement a été saisi d'une loi de validation, je résume, c'est-à-dire un détournement de procédure pour faire en sorte que le Parlement neutralise une décision de justice. Alors que l'État avait fait appel, ce qui est son droit le plus total, il a le droit de faire appel de cette décision, mais il y a des parlementaires qui sont allés déposer un projet de loi, une proposition de loi de validation pour neutraliser cette décision de justice. Avec tout un discours sur, effectivement, le côté illégitime de cette décision de justice, parce que vous comprenez, on a déjà mis beaucoup d'argent dans les travaux, donc il faut les finir. Bah non, si ce,
ah, ça,
si ce
c'est un argument qu'on a vu revenir très très souvent. Oui.
Il y a eu une pression qui a été exercée à cet endroit-là sur la justice administrative. Moi, j'avoue que c'est une première parce que c'est généralement une justice qui passe à côté des radars médiatiques dont on parle un peu moins. Et là, si eux-mêmes se voient critiqués comme ça, c'est dire ce qui se prépare pour les autres juges.
C'est ça, donc, surtout que, oui, pardon de vous interrompre, surtout qu'en fait, quand on travaille sur les questions de corruption, les magistrats sont ciblés depuis un certain temps, ils sont attaqués. Les magistrats qui ont eu à juger de l'affaire des assistants parlementaires européens du FNRN, par exemple, ont été jetés en pâture sur la place publique. Ils ont été menacés, donc ils ont dû faire l'objet d'une protection policière. Donc ce n'est pas la seule. Et je voulais juste donner un exemple d'avocat en environnement qui a été attaqué récemment en diffamation. C'est Maître Laure Abramovitch qui est poursuivi en diffamation pour défendre en fait une association de l'environnement. Et quand elle a été auditionnée, le policier lui a demandé de révéler ses conversations avec son association cliente.
Eh bien, merci. On en profite aussi pour rappeler que les magistrats disent le droit, qu'ils sont indépendants. Et il faut rappeler cette séparation des pouvoirs, l'impartialité, la neutralité de la justice. Merci à tous les trois. Arnaud Gossman, Sophie Lemaître, je rappelle le titre de votre livre « Réduire au silence » édité chez Rue de l'Échiquier. Inès Leroux, « Algues vertes, l'histoire interdite » et « Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement ». Tout cela aux éditions Delcourt. Et pour en savoir plus, bien sûr, comme d'habitude, vous disposez des informations, d'une biographie sur le site France Culture. culture.fr, rubrique de cause à effet, ou d'autres podcasts en lien avec le sujet sont également à votre disposition. Merci encore.